Vers un pilotage stratégique, évaluation et projet d'établissement. Salut à toi, bienvenue sur Leader dans l'enseignement catholique, le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton école, ton collège ou ton lycée. Prêt ? Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Leader dans l'enseignement catholique. Et à nouveau, cette semaine, nous accueillons Lucile Boncompain pour parler. On a parlé de son livre la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va faire le lien avec l'évaluation. Et donc, nous allons discuter de l'interaction entre le projet d'établissement et son évaluation, et même de l'évaluation d'établissement. Alors, comment ces éléments s'articulent-ils? Comment, pour améliorer la gestion et le leadership? Eh bien, Lucile va nous partager à nouveau son expérience et nous donner plein d'idées pour travailler ces questions-là. Bonjour Lucile.
Bonjour François.
Bon, je pense que vous allez toujours bien, parce qu'on enregistre à la suite les deux épisodes. Je n'avais pas posé la question tout à l'heure, donc comment devient-on Lucile Boncompain?
Je suis docteur en sciences de l'éducation et j'ai créé une société qui s'appelle Les Couleurs de l'éducation il y a 5 ans. Voilà, fruit de beaucoup d'expérience et de formation dans le métier, dans les métiers de l'éducation et de l'entreprise également. Voilà. Les couleurs de l'éducation, c'est une société de conseil, un organisme de formation certifié Calliope. Et les lignes de service proposées sont principalement l'accompagnement des chefs d'établissement à élaborer leurs projets, le conseil également en matière de pilotage et d'organisation des établissements, ou la formation des cadres à la clarification de la vision stratégique et au pilotage.
D'accord. Très bien. Alors, j'avais donc dans votre livre, vous parlez de l'évaluation. Alors, nous, en tant qu'établissement scolaire, on parle aussi beaucoup d'évaluation dans les classes, mais aussi nos établissements peuvent être évalués. Et on parle aussi d'évaluation de projets. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer par rapport à cette notion d'évaluation?
Eh bien, je vais m'appuyer sur la question de l'évaluation des établissements qui a fait l'objet d'un texte de cadrage par les instructions officielles de 2020 et qui sont en place déjà dans les établissements depuis plusieurs années. Voilà, et qui est une démarche instituée par le ministère de l'Éducation nationale, mais reliée d'ailleurs dans le premier texte de cadrage à la question du projet d'établissement. En fait, les autorités souhaitent relier les deux en disant, voilà, on s'appuie sur un état des lieux de terrain pour formuler des orientations pour chaque établissement, des orientations stratégiques, et la question de se dire, on essaie d'avoir de la vision et on essaie surtout d'avoir une vision spécifique pour son établissement en lien avec son territoire, sa réalité, son équipe aussi, ses élèves, ses familles, et de travailler en systémie, c'est-à-dire de considérer pour l'état des lieux et pour les projections d'avenir toute la communauté éducative autour d'une question centrale, l'efficacité des apprentissages pour les jeunes. Bon, en cela, les deux démarches, en fait, se rejoignent. Les deux préoccupations, en tous les cas, l'évaluation des établissements et le projet d'établissement, se rejoignent. On peut avoir des différences cependant, puisque l'évaluation de l'établissement, on peut dire que le ministère se penche sur l'établissement, donc il y a une vision un peu enfin, descendante des services déconcentrés de l'État qui amène un jugement. On peut le percevoir comme ça, même si dans les faits, les équipes qui évaluent sont peu perçues dans ce style-là, mais en tous les cas, mesure un état des lieux qui peut être un peu figé. Alors que le projet d'établissement développe une ouverture beaucoup plus peut-être spécifique sur les orientations, plus précise, et met le cap sur véritablement la mise en œuvre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà. Donc, les deux peuvent s'enchaîner très très bien, y compris dans la méthode.
Alors justement, parlons méthode. Comment ça se passe tout ça ?
Alors, j'ai parlé la semaine dernière de la démarche autour du projet d'établissement. Ce que je sais de l'évaluation, c'est déjà qu'elle s'appuie sur des sondages adressés aux élèves, au personnel, non-enseignants, enseignants, aux familles. Finalement, ces sondages et les questionnaires tels qu'ils sont faits ou tels qu'ils peuvent être personnalisés par les équipes, permettre de collecter un certain nombre de données. Alors, certaines de ces données collectées vont concerner des questions d'organisation de l'établissement ou des questions qui ne vont pas concerner le projet d'établissement, mais d'autres peuvent très bien être reversées au travail sur le projet d'établissement, reversées comme étant déjà des matériaux qui renseignent sur les forces et les points enviables de l'établissement, ce que les gens apprécient, ou bien sur les propositions d'action à venir, donc la phase orientation vision stratégique du projet. Donc déjà en cela, on peut très bien utiliser les questionnaires de l'évaluation, les résultats de ces questions pour collecter des matériaux et écrire le projet. Voilà. Ensuite, au niveau de la méthode, concevoir l'évaluation ou l'auto-évaluation de l'établissement va nécessiter, quand on est un groupe scolaire ou un établissement un peu important, constituer des groupes collaboratifs, des groupes de pilotage. C'est ce qui est préconisé dans les textes. Et cette formation de groupes de pilotage, eh bien, on peut également s'en servir pour réfléchir sur le projet, la vision stratégique. Voilà. Donc, ces groupes de pilotage ne resteraient pas orphelins après avoir travaillé à concevoir les questionnaires ou rédiger le rapport d'auto-évaluation, mais pourraient très concrètement servir à piloter ensuite l'élaboration du projet, voire même la mise en œuvre du projet.
Ok.
Voilà, deux exemples de coordination des deux possibles.
En fonction de la taille de l'établissement, tout à fait. C'est à prendre en compte.
Oui.
Et comment l'évaluation de l'établissement, on peut le transformer en outil de pilotage ?
Alors, parce que les données récoltées, quand les questionnaires posés sont utilisés, vous avez des données remarquables d'état des lieux concernant, on va dire, le ressenti du bien-être des élèves, des familles. Donc, vous savez pourquoi les familles viennent dans votre établissement, ce que les élèves, la vision des élèves est souvent extrêmement pertinente, fine, bien construite. Les personnels, bien sûr, enseignants, non-enseignants, vous apportent des données qui sont fondamentale sur vos choix. Ensuite, concernant les pratiques pédagogiques, les enseignants vont répondre à des questionnaires très fins sur les usages du numérique quant à leur pratique d'enseignement ou pratique collaborative, la façon dont ils travaillent ensemble ou pas, les modalités pédagogiques également. Il y a tout un panel de questions qui sont proposées par les questionnaires de départ conçus par le ministère qui sont quand même extrêmement spécifiques. Et vous pouvez les retoucher à la marge, en marge, en simplifiant ou en adaptant, en précisant, mais par rapport à votre contexte. Donc, en cela, vous avez des informations très, très précieuses pour piloter ensuite votre établissement. Oui. Et ensuite, ça vous, en termes de pilotage, vous avez là une occasion. Lorsque vous lancez les questionnaires ou lorsque vous récoltez les données, vous avez des occasions de parler à votre communauté éducative. Donc, de vous mettre en relation avec les équipes de l'intérieur, mais aussi avec les familles. Donc, de présenter pourquoi vous allez bien sûr lancer les questionnaires, mais aussi vous pouvez souhaiter annoncer les résultats, présenter les résultats et les données et dire ce que vous allez faire maintenant. Et ça, c'est une occasion très précieuse que vous pouvez choisir d'instituer comme étant un moment un peu solennel, comme un nouveau point de départ. Un peu comme le projet, finalement, d'établissement a besoin d'être promulgué à un moment donné, officialisé. C'est un rite, si vous voulez, de passage vers autre chose, un moment où vous rassemblez tout le monde pour dire, voilà, on vous a entendu, maintenant, voilà ce qu'on va faire. On met le cap sur la même chose, du renforcement dans certains domaines ou de l'innovation dans d'autres domaines. Eh bien, c'est un moment précieux, du coup, de communication pour le chef d'établissement, de son pilotage et de sa vision, de façon collaborative, hein, concernant toute la communauté, qui est un moment très précieux. On n'en a pas tant que ça quand on est chef d'établissement, des moments comme ça, pour communiquer d'un seul bloc sur l'ADN de l'établissement et la veine que l'on souhaite, la couleur, la teinte que l'on souhaite donner à l'établissement, finalement. Donc c'est une occasion rêvée, oui, de pilotage de l'établissement.
Donc je collecte les données, je rassemble tout ça, j'en fais le tri bien sûr, et puis ensuite j'annonce les résultats effectivement. Et de là, en fait, va naître des questions, va naître aussi des richesses, et donc c'est un petit peu pour le chef d'établissement, voir ce qu'il va pouvoir mettre en avant dans son établissement. Effectivement, quand il y a des choses qui fonctionnent bien, ben, faut le dire. Et on ne le voit pas toujours d'ailleurs. Et puis, parmi les questions qui vont ressortir, peut-être les points faibles, en faire des sujets de concertation, des sujets de travail pour le conseil d'établissement, etc. C'est ça l'idée?
Ah, oui, absolument. Et comme vous dites, on ne voit pas toujours les points forts. Mais vous savez que dans la démarche du projet d'établissement, arriver à faire expliciter les points enviables, donc ces fameux points forts plus que ça, c'est un travail important. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, parce que ce qu'on fait quotidiennement, on le fait de façon inconsciente. Donc, il faut déjà conscientiser ce que l'on fait bien. Et ensuite, l'expliciter avec des mots suffisamment spécifiques. Je prends un exemple. La bienveillance, c'est complètement galvaudé. Mais derrière la bienveillance, qu'est-ce qu'il y a comme geste professionnel? Comment on la met en jeu, cette bienveillance? Est-ce que c'est par rapport aux mots qu'on utilise avec l'enfant? Est-ce que c'est des temps qui sont consacrés à l'écoute et qui sont organisés dans un emploi du temps? Est-ce qu'il y a un lieu pour parler? Voilà, selon les établissements, en fait, on va vivre cette bienveillance de différentes façons. Donc, plutôt que de parler de bienveillance, il faut parler de la spécificité à laquelle on œuvre derrière la bienveillance. Voilà. Derrière le bien-être, c'est pareil. Si on parle de bien-être des enseignants, le bien-être des enseignants, c'est quoi? Il peut y avoir de l'entente personnelle, de l'entente professionnelle. Il y a souvent la question du sentiment d'efficacité de l'enseignant. Et le sentiment d'efficacité, il peut tenir à plusieurs choses. Je vous donne juste des exemples hyper concrets. Un sentiment d'efficacité, il peut venir de sa formation, être à l'aise avec ses outils, avec son métier. ChatGPT, par exemple, a révolutionné, a déstabilisé ce sentiment d'efficacité personnelle pour beaucoup d'enseignants, en particulier au lycée, les professeurs de lettres au lycée. Ce sentiment d'efficacité personnelle, donc avec ChatGPT, qu'est-ce qu'on en fait? Si on ne traite pas la question spécifique de ChatGPT ou des outils numériques pour le métier, à un moment donné, de façon collaborative dans le, dans, au sein de l'établissement, eh bien, on va abîmer le bien-être de l'établissement parce qu'on va louper la construction tout au long de la vie professionnelle de l'enseignant vis-à-vis de son sentiment d'efficacité. Un autre exemple, je reviens aux questions de règles, d'autorité, de l'élève. Voilà. Si le règlement est laissé, il est souvent écrit, signé en début d'année, et puis on le laisse, et parfois il n'est pas suffisamment réinterrogé ou explicité. Et puis les enseignants mettent en place des règles de vie dans leur classe qui leur sont propres. Bon. Mais quid du soutien de la hiérarchie et de la montée en gamme, si vous voulez, de l'autorité, donc du processus de soutien de la hiérarchie et du processus d'intensité de la sanction lorsqu'il y a un problème d'autorité. Ça, cette question-là, elle peut abîmer le sentiment d'efficacité d'un enseignant et le bien-être d'un enseignant. Donc derrière bien-être de l'enseignant, il peut y avoir également cette question de soutien de la hiérarchie ou d'intensité de la sanction, travailler ou peu ou pas dans les établissements. Voilà, donc si vous voulez arriver à spécifier les choses, ça c'est un point que vous avez pointé comme étant un point important, oui, effectivement. Donc ça déjà, l'évaluation peut permettre de le faire tout comme le projet. Et puis ensuite pour les orientations, pareil. Mais là, je suis un peu trop longue.
C'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je donne aux nouveaux chefs d'établissement. Enfin, quand on arrive dans un établissement, c'est peut-être dans les premières choses à faire, c'est de revoir justement le règlement intérieur et voir si tout le monde est bien d'accord sur tout ce qui est écrit dans le règlement intérieur et d'en profiter pour le dépoussiérer peut-être un petit peu. Alors, maintenant, vous avez partagé des exemples concrets, donc tout est très bien. Dans le processus d'évaluation, quel est un petit peu le rôle des enseignants et des personnels? Est-ce que vous avez parlé, on a parlé tout à l'heure de groupes de pilotage. Est-ce qu'on crée des groupes et puis on leur donne une consigne et on laisse faire? Comment le chef d'établissement rentre-t-il dans la boucle?
Le chef d'établissement, avec ses adjoints, s'il en a, ou son groupe de pilotage qu'il va désigner, a déjà beaucoup à faire, à concevoir, savoir écrire les questionnaires, les mettre sur un support numérique facile à communiquer, en fait. Et ensuite récupérer les données et écrire le rapport d'auto-évaluation. Donc là, il va le faire avec plusieurs personnes. Et ça, c'est déjà un gros travail parce que quand on écrit le questionnaire, bon, on peut récupérer les questionnaires de l'éducation nationale, mais souvent, on les adapte. Donc, plusieurs conseils qui sont des conseils, on va dire, de béaba, mais ne pas avoir trop de questions ouvertes parce que lorsque vous allez récupérer les données, ben vous allez avoir des difficultés à traiter ces données, vous ne saurez pas quoi en faire. Ou quand vous formulez des questions, proposez des choix de réponses qui nécessitent une intensité de 1 à 4, pas de 1 à 5, en fait un degré d'intensité pair et pas impair, de façon à ce que vous ayez une vraie vision de ce qui, est-ce que c'est satisfaisant ou est-ce que ce n'est pas satisfaisant. Voilà. Vous voyez, donc avoir une échelle d'intensité pair et pas impair pour pouvoir récupérer des données qui veulent dire quelque chose et que les personnes
ne mettent pas le 3.
Non, voilà, mettent pas le 3 du milieu.
C'est ça.
Voilà.
Qui veut tout dire et rien dire.
Voilà, donc un petit conseil. L'idéal serait de pré-tester les questionnaires, c'est-à-dire qu'une fois que vous les avez conçus, de les envoyer à 2-3 personnes et de voir comment les personnes comprennent les questions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension des questions. Ça vaut le coup quand même de le faire. Au moins les questionnaires pour les familles, ouais, ça vaut le coup.
Même le pré-tester avec quelques familles de l'appel, c'est intéressant.
Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc là, il y a déjà un gros travail pour
Pour le
un
chef
comité de
d'établissement.
pilotage autour du chef d'établissement, avec des questions hautement stratégiques quand même, et le degré de précision que le chef d'établissement souhaite. Hein. Voilà. Et ensuite, rédiger les données, rédiger le rapport d'auto-évaluation. Ça, c'est un travail pour le comité de pilotage qui est important aussi.
Et alors je reviens sur l'idée quand on a un très gros établissement ou même un petit, des fois on organise des petits groupes de travail. Et ma question en fait par derrière, c'est est-ce que le chef d'établissement laisse carte blanche et parce qu'on va avoir dans la question, c'est est-ce que le chef d'établissement doit être partout et tout contrôler ou est-ce qu'il doit faire confiance? Enfin voilà, quel est un peu votre point de vue par rapport à ça?
Les deux, je dirais, à la fois faire confiance, mais à la fois avoir un regard en amont et en aval, c'est-à-dire donner un cahier des charges, des attendus, et puis être présent au moment de la remontée des données, forcément. Pas pour contrôler le travail, mais pour pouvoir construire derrière. Ça, c'est pas une question de contrôle de si le travail est fait. Bon, ça, bien entendu qu'il le faut, mais il faut pouvoir discuter ensuite avec le comité de pilotage des résultats, de façon à dire qu'est-ce qu'on fait maintenant.
Tout à fait.
Parce que votre comité de pilotage, lorsqu'il voit comme réponse que les enseignants utilisent le numérique dans leur pratique, bon, je reprends, c'est pas un dada, hein, cette question du numérique. C'est facile
C'est
comme
facile, oui,
sujet
tout à
pour
fait.
illustrer, ça parle à tout le monde. Voilà. Voit que 10% des enseignants seulement utilisent le numérique dans leur pratique de classe avec les élèves. Imaginons que le comité de pilotage voit ça, alors qu'il a été décidé l'année d'avant d'investissements massifs dans l'établissement de tablettes, de Wi-Fi partout, d'écrans de vidéoprojecteurs, etc. Et que concrètement, ce n'est pas assez utilisé. Là, le comité de pilotage va remonter cette question forcément au chef d'établissement et là, les questions vont fuser. D'où ça vient? Est-ce que le matériel n'est pas adapté? Est-ce que la formation n'est pas adaptée? Est-ce qu'il n'y a pas d'envie? Est-ce que le matériel a mal été décidé finalement? Est-ce que voilà, il y a quand même véritablement là un gros problème, une grosse question à soulever.
Ok.
Et
Très
le
bien.
chef d'établissement ne peut pas y répondre tout seul, le comité de pilotage ne peut pas y répondre, puisque la réponse, elle est 10%. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce qu'on re-questionne? Comment est-ce qu'on retravaille avec les équipes? Eh bien, ça, c'est de l'ordre du travail entre le chef d'établissement et son comité de pilotage. Et ce serait dommage, donc, que ce travail ne soit pas versé à l'élaboration d'un projet d'établissement, puisque là, on est vraiment dans le cœur concrètement, d'un travail qui pourrait être formulé dans un projet d'établissement.
Très bien. On arrive à la fin de cet épisode, donc déjà merci. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller? Alors pas forcément un livre, hein, professionnel, mais pour augmenter un peu notre bibliothèque à tous.
Alors, avec plaisir, il y en a un que je vous conseille, qui est un livre écrit il y a l'année dernière, ou il y a 18 mois, qui s'appelle Noise, en anglais, Noise, d'Olivier Siboni et de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman étant prix Nobel d'économie aux États-Unis et Olivier Siboni, professeur à HEC, entre autres. Alors, Noise traite de quoi? Des erreurs de jugement, de façon générale. Quelles sont les erreurs de jugement que l'on fait simplement parce qu'on est humain? Voilà, dans l'humain, il y a plein d'erreurs de jugement qui sont liées à différents facteurs incompressibles, mais en fait, qui peuvent poser d'énormes problèmes lorsqu'il s'agit d'erreurs de jugement liées à des organisations professionnelles. du type les métiers de la justice, les métiers de la médecine, médicaux et les métiers de l'enseignement.
Oui.
Dans l'enseignement, l'évaluation peut amener à énormément d'erreurs de jugement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on peut mieux travailler la question de l'évaluation des copies d'élèves dans des matières non scientifiques et donc plus sujettes à l'erreur de jugement? Et comment faire pour avoir des notes un peu harmonisées et ne pas avoir un prof qui note 3 points au-dessus ou en dessous du voisin dans le même établissement. Voilà, ce n'est pas tant la question d'évaluer par la note ou par la compétence, mais c'est la question d'harmoniser comme ça le jugement, les visions. Et donc, dans ce livre, à l'appui de recherches scientifiques, voilà, de beaucoup, beaucoup d'expériences qui sont extrêmement enrichissantes, vous avez des solutions très concrètes pour arriver à faire travailler les équipes sur les questions d'évaluation.
Très intéressant.
C'est un livre un peu dense, mais que je connais bien. Et donc, là, derrière, on peut travailler avec les équipes de façon extrêmement concrète, outillante et efficace. En très peu de temps, on bâtit une révolution, c'est pas une révolution, mais des outils collectifs beaucoup plus efficaces en matière d'évaluation dans les établissements scolaires.
C'est d'autant plus important que une partie des examens maintenant se font ne sont plus enfin c'est en travail je trouve plus mes mots, mince.
On continue en travail continu
voilà, donc
absolument
bien. Ben, un grand merci pour toutes ces informations, et puis chacun y réfléchira.
Merci pour cette invitation, François.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, l'entretien avec Lucille est terminé. Et un grand merci pour ton écoute. J'espère que tout ça va t'aider dans l'évaluation, dans le projet d'établissement, la rédaction. Toutes ces idées, eh bien, j'espère qu'elles te seront utiles dans ton rôle de chef d'établissement. Et encore une fois, pour ne rien manquer des prochains épisodes, eh bien, tu peux recevoir toutes ces informations dans la lettre que j'envoie tous les mois. Et pour cela, il suffit de te connecter via le lien dans la description de cet épisode. À très bientôt. Nous voici à la fin de cet épisode de Leader dans l'enseignement catholique. J'espère que les discussions et conseils partagés aujourd'hui t'ont été bénéfiques et t'inspireront dans ton quotidien. Assure-toi de t'abonner pour rester à jour avec tous nos futurs épisodes. Ton avis est essentiel pour l'évolution de ce podcast. Je t'invite donc à partager tes réflexions, tes questions ou même à proposer des thèmes que tu aimerais voir abordés lors de nos prochaines émissions. Tu peux exprimer tout cela en laissant un commentaire ou en me contactant directement. Si tu as trouvé de la valeur dans l'épisode du jour, partage-le avec d'autres chefs d'établissement et amis dans le domaine. Merci de m'avoir accordé de ton temps aujourd'hui et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission enrichissante de Leader dans l'enseignement catholique. Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.